Bonjour Dominique Cabrera.
Bonjour.
Nous sommes au cinéma L'Arvor à Rennes et ce week-end a lieu une rétrospective de tes films, L'intime et le politique. Depuis les années 1980, tu as réalisé des documentaires, mais aussi des fictions, près d'une trentaine de films en tout. Ton thème de prédilection, c'est la vie ordinaire. Tu as filmé au long cours ta famille, les banlieues et la société plus généralement. À travers le temps, c'est aussi le fil de ta vie qui se dessine. En 1988, dans Ici, là-bas, tu te remémores ton histoire familiale de pieds noirs et ta famille sera présente toujours dans Demain et encore demain, un journal intime filmé et puis Grandir en 2013. Pendant plus de 10 ans, entre 1981 et 1994, tu as aussi filmé au long cours la banlieue. Et tes documentaires sont un peu comme un portrait de ce territoire. Avec ses habitants et habitantes, tu donnes à voir leur vie ordinaire. Mais alors, que voulais-tu faire résonner de leur histoire? Est-ce que c'est aussi un peu un écho à ton histoire personnelle?
Oui, certainement. Je crois que ma première inspiration quand j'étais enfant, c'est d'avoir été touchée, émue par ceux qui étaient autour de moi, les voisins, mes oncles et tantes, mes parents, mes frères et sœurs. Ça a été eux, peut-être, mes premiers héros et mes premières héroïnes. Et quand ensuite j'ai commencé à faire du cinéma, cette empreinte-là m'a conduite à prendre comme héros, héroïne, monsieur, madame, tout le monde.
Et pour citer « Chronique d'une banlieue ordinaire » présentée aussi pendant la rétrospective, tu as filmé des habitations vidées d'une tour HLM de Mantes-la-Jolie à travers les yeux de celles et ceux qui les occupaient.
Ça, c'était la maison à Mireille, ma copine. Elle était décédée, elle avait laissé 3 enfants, mais c'était une femme formidable. Depuis qu'elle est partie, la maison, elle est restée sans... Ça fait un vide, c'est vrai, ça ne vous avait fait trop mal. Et... C'est vrai, c'est une perte. Quand je me souviens, ça fait... mal au cœur, parce que c'était une vraie voisine pour moi. C'était la meilleure voisine que j'ai eue dans toute la tour. Ben voilà, c'était mon couloir. Il y a un peu de changement, mais de toute façon, il est toujours la même. C'est vrai, c'est... Voilà, ça... Par là, c'était ma chambre à coucher. Oh, il y a plein de médité en ce moment. Là, il y avait ma chambre. Je suis un petit peu perdue dedans parce que c'était pas comme ça quand je l'avais laissée. Et j'ai plein de souvenirs dedans. Je suis venue ici, ça a été quand même... J'avais 20 ans. C'est un âge qu'on n'oublie pas facilement et j'ai parti d'ici, j'avais 28 ans, alors j'ai passé quand même 8 ans dans cet appartement, alors ça ne s'oublie pas facilement.
La destruction de cette tour est alors imminente et ce film peut rester comme une trace de leurs souvenirs. Conserver des images du temps qui a passé, c'est aussi le fil rouge de ton travail. As-tu le sentiment d'être... happé par ce besoin de laisser une trace, une mémoire?
Oui, certainement. Je crois que quand j'étais enfant, j'ai dû voir sur les murs de notre maison des projections de films. Mon père louait des projecteurs Super 8 et, avec des bouts de films. Et ça a été ma première expérience en fait, cinématographique, de voir Charlie Chaplin ou bien des images qu'il filmait de la famille. Et j'ai été, je pense, durablement impressionnée, dans tous les sens du terme, par le fait que, le fait que le cinéma garde vivant ceux qu'il filme, et y compris après leur mort. Et voilà, je suis toujours là, en fait, hein, à vouloir capter l'instant, le moment, dans sa plénitude, si possible, de façon à ce que ça reste, ce soit là, bien après notre mort.
Et que voulais-tu transmettre de ce lieu qui allait disparaître ? Est-ce qu'il y a des petites choses qui t'ont capté ? Est-ce que tu as repéré justement ce que tu voulais faire ressentir au spectateur, à la spectatrice ?
D'abord, je me promenais dans ces appartements vides et j'imaginais, je rêvais à ceux qui avaient vécu là. J'ai cherché après à les retrouver. Et moi, quand je me baladais dans ces appartements vides, ça me faisait aussi penser à mon enfance, à moi, dans des immeubles HLM. Et à quel point je pouvais voir, quand j'étais enfant, parce que les enfants transfigurent la réalité, je pouvais voir de la beauté dans ces lieux. J'y avais comme une inspiration poétique, le ciel par la fenêtre, la lumière sur le balcon, les ampoules de l'arbre de Noël à travers les vitres en verre martelé de la salle à manger. Voilà, tout. Comment dire, j'éprouvais le sentiment de la poésie, de la beauté, de la fugacité des choses dans ce lieu qui servait rarement de décor à des œuvres. Les œuvres que j'étudiais en classe, elles ne se passaient pas dans des HLM. Et donc pour moi, ça a été très important de faire exister cet immeuble, y compris à travers sa poésie et sa beauté. Et donc, ça a été vraiment une de mes sources d'inspiration, en fait, redonner de la dignité et de la poésie à ces lieux stigmatisés. Donc, aux gens. C'est pas, évidemment, les lieux comptent, mais les lieux comptent parce qu'il y a eu des habitants, des personnes. Et c'est pour ces personnes que je fais le film, parce qu'eux m'intéressent, parce qu'eux, je veux les en garder une trace, en fait, parce que je les trouve intéressant, beau, touchant, racontant quelque chose de profond de la vie en général. Et donc ça a été très important pour moi de faire le mieux possible pour que leur rayonnement se transmette aux spectateurs.
Et on sent beaucoup d'émotion quand tu parles de ton travail sur les banlieues, des films que tu as réalisés sur ces personnes qui vivent là-bas au quotidien. Et tu voulais aussi montrer une autre image de ce territoire. Mais ce cycle de films n'est pas la seule facette de ton travail. Tout à l'heure, j'ai présenté l'un de tes premiers documentaires, Ici, là-bas. Depuis la France, avec ta famille, tu t'es interrogé sur ton histoire en Algérie, parce que tu es né là-bas et tu as filmé en 1988 ta famille. Mais ta famille t'a toujours suivi dans tes documentaires, notamment avec Grandir, qui est un documentaire qui s'étale sur presque 10 ans, un peu comme une fresque familiale. Je me suis demandé comment tu t'es laissé guider par cette envie de te réapproprier ton histoire par le cinéma.
C'est très difficile de répondre à cette question. Parce que justement, c'est comme la vie. On avance, on recule, on trouve qu'on n'y arrive pas et puis on y arrive un peu. Tu vois, ce n'est pas se laisser guider, c'est plutôt se plonger dans ce travail. C'est plutôt ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment de décision. Ça va être ça, on va essayer de faire ça. Et de s'y tenir et de ne pas laisser tomber si possible. Et à travers des tas de moments de joie et puis des moments de découragement et puis des moments de travail, au bout du compte, on a fait ça. C'est plutôt ça. Je me suis intéressée à eux et j'ai essayé de continuer à m'intéresser à eux à travers ce que je pouvais filmer.
Et tes documentaires qu'ils portent sur ton histoire familiale ou sur l'histoire des banlieues sont très intimes, c'est au cœur de ton travail. Mais que tu sois avec les membres de ta famille ou avec les habitants, habitantes d'HLM, tu cherches à recueillir leurs paroles, leurs confidences, leur confiance, c'est primordial. Et je me demandais aussi, qu'est-ce qui change dans ton approche face à des personnes qui sont intimes, ta famille, ou des personnes qui sont inconnues que tu rencontres dans les banlieues ?
Je crois que c'est plus facile de filmer des personnes inconnues. Parce que filmer des personnes connues, il faut trouver une nouvelle confiance, en fait, trouver un terrain nouveau pour faire un film, un terrain autre que celui de notre relation. Et ça, c'est plus difficile que d'établir un terrain commun avec des inconnus. Parce que c'est comme si on essayait de mettre à distance notre histoire familiale pour faire quand même un film. Et ben c'est tout un cheminement.
Si on remonte un peu dans le temps, en 1988, quand tu commences à filmer ta famille, tu parles d'un sujet qui est assez douloureux pour cette famille, ton histoire familiale de pieds noirs. Est-ce que ça a été justement difficile d'approcher la caméra, de leur poser des questions? La parole s'est-elle libérée facilement? Quel a été le cheminement?
Oui, assez facilement. C'était plus difficile après, parce que je trouve ce film-là, il n'est pas assez complexe. Et je pense qu'ils ont été un peu blessés après que je sois une parole trop adolescente. Et après, j'ai du coup essayé de faire un autre film, puis encore un autre film, puis encore un autre film, pour que les choses soient vraiment dépliées. Mais non, je crois qu'ils ont été avec moi. Ça n'a pas été si difficile. Ou alors j'ai oublié.
C'est très intéressant. Et on peut aussi parler du cinéma autobiographique avec Demain et Encore Demain. On voit que le cinéma, c'est un lieu d'expression, mais surtout un espace privilégié pour livrer, capter des instants de vie, des moments pris sur le vif. Et c'est aussi se montrer à la face du monde. Quand ressens-tu le besoin de filmer? Et surtout, est-ce que tu t'es déjà posé la question si jamais tu laissais trop entrevoir ton intimité?
Pas tellement, en fait. C'est-à-dire que ce que je peux répondre, c'est plusieurs choses. D'abord, je pense que quand je fais ce film, j'ai pas les spectateurs très concrets à l'esprit. J'ai plutôt à l'esprit, disons, les autres films, les autres œuvres, les livres, les films, les peintures que j'ai aimées. C'est-à-dire mon propre regard captivé, intéressé par les œuvres, pour qui les œuvres ont été quelque chose de fondamental. Et donc quand je fais des films, c'est plutôt, ou que j'écris, ou j'ai plutôt dans l'esprit les autres œuvres et un spectateur, une spectatrice idéale, capable de les recevoir. Et j'en ai rencontré beaucoup d'ailleurs, des spectateurs et des spectatrices comme ça. J'ai pas dans l'esprit un regard malveillant. Donc, au fond, ma barre, elle est très élevée. Et par rapport à cette barre élevée, à toutes ces œuvres que j'admire, moi, j'ai souvent le sentiment de ne pas être forte, assez généreuse, assez inventive. Et donc, j'ai pas du tout l'impression d'en laisser trop voir. Mais, enfin, c'est pas sur ce mode-là, quoi. Mais peut-être de pas aller assez loin dans ce qui pourrait traduire la beauté, la complexité de la vie.
Donc l'intime, c'est une facette de ton travail, mais aussi le politique, et c'est justement le nom de la rétrospective qui t'est accordée au cinéma L'Arvor, mais c'est aussi le nom d'un ouvrage écrit par Julie Savelli, L'intime et le politique. On se rend compte alors que ton geste cinématographique se lie au politique. Mais est-ce que tu as toujours eu conscience du rôle du politique dans ton œuvre, ou finalement c'est venu un peu plus tard, où tu t'es dit « Ah oui, mes films peuvent avoir une répercussion aussi politique ».
En fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionnait dans les années 70, c'était la politique, quand j'étais toute jeune. Et j'avais dans l'esprit les films politiques, Iskra, les films engagés, les films italiens, enfin tu vois, le fait qu'il y ait de la politique dans les films, que que la culture ait un aspect très important critique, qu'il y ait l'idée d'une alternative politique, ça me passionnait. Et c'est progressivement, en utilisant le cinéma et le fait que le cinéma filme des humains, des sentiments, des visages, des êtres, que le côté, on pourrait dire, intime, enfin la personne, quoi, les personnes, leurs sentiments, leur existence, leur être, a envahi de plus en plus la scène, en fait. Et je me rends bien compte que maintenant, la politique me passionne, mais les êtres, ça, voilà, ça me touche énormément. Donc, c'est l'inverse. D'abord la politique, et puis après, de plus en plus l'intime, et bien sûr que l'intime est traversé par les questions politiques.
C'est très intéressant, parce que ce n'est pas comme ça que j'avais perçu les choses. Et justement, en discuter, eh ben, ça me permet complètement de changer mon regard aussi sur ton œuvre, parce que je pensais qu'il y avait aussi une volonté d'abord de faire les œuvres intimes, et ensuite, je me disais, les trajectoires personnelles de ces gens racontent aussi une grande histoire, et je voulais savoir si tu en avais toujours eu conscience.
Je crois que j'ai toujours eu conscience, même quand j'étais enfant, du fait d'être d'une famille pied-noir, donc d'une famille dont la vie a été bouleversée par un événement politique, l'indépendance de l'Algérie. Bah, j'ai toujours eu une très forte conscience de que la politique, l'histoire était au cœur de nos vies intimes. Et comme je suis de la génération des années 70, c'est-à-dire une génération politique, politisée, c'était ça d'abord, l'injustice sociale, la domination qui m'a mise en mouvement. Et progressivement, je me suis mise à m'intéresser à des œuvres plus intimes et à essayer de dire mon mot, moi aussi.
Et pour finir, il y a une phrase très intéressante que tu as dite. « Ce que j'aime dans le cinéma, c'est le fait que l'on filme des êtres vivants et qu'on conserve leur image, leur être, même plus que les images, leurs traces, pour toujours. » Et aujourd'hui, peut-être que tu portes un autre regard sur ces 30 années de films, ces 40 années de films même. Quel est ton sentiment quand tu repenses à toute cette filmographie derrière toi? Quel regard portes-tu là-dessus? Et surtout, as-tu un sentiment de fierté de tout ce que tu as accompli?
Pas tellement. Non, sincèrement, d'abord, c'est rare que je regarde en détail le passé. Mais non, je pense plutôt que j'aurais dû mieux faire, que je n'ai pas été assez vite, assez profond, que c'est seulement maintenant que je commence à comprendre un peu de quoi il s'agit. Et que déjà, le temps est compté, quoi. Non, sincèrement, je n'ai pas ce sentiment de fierté. J'ai essayé de faire des choses et je commence à comprendre progressivement ce que j'ai essayé de faire. Et voilà, j'espère pouvoir faire d'autres films maintenant, meilleurs.
Mais quand tu dis qu'il y a des choses que tu referais différemment, est-ce que ce n'est pas des regrets non plus?
Non, je crois qu'il faut essayer de ne pas avoir de regrets, mais... C'est vrai que souvent je me dis « Ah mais là j'aurais dû faire ceci, cela, faire mieux, être plus attentive, voilà. » Mais c'est ainsi, hein. Heureusement qu'on mène sa vie sans... Il faut bien agir pour vivre, quoi, voilà. Et j'ai essayé d'agir comme j'ai pu, et quand j'en ai eu la possibilité. Et puis il y a des moments qui sont beaux, il y a des... voilà... Il y en a d'autres moins réussis, mais peut-être que j'en sais rien, en fait. Il ne faut pas trop regarder en arrière.
Mais dans le fond, je pense qu'on aimerait tous refaire un petit peu les choses différemment. On veut tous faire un peu mieux et rien n'est jamais parfait.
Voilà, c'est ça. Et peut-être que c'est ça qui est la chose principale. Accepter, d'ailleurs, c'est pour ça que les films sont vivants. Ils sont acceptés, l'imperfection du geste, l'imperfection des êtres devant et derrière la caméra. C'est ce qui permet de saisir quelque chose de la vie.
Merci beaucoup Dominique Cabrera pour ces mots et surtout d'avoir pris le temps de me rencontrer au cinéma L'Arvor. Et c'est juste avant la projection de deux de tes films autour des banlieues, Rêve de ville et Une poste à la Courneuve.
Merci.